Scroll News, je vous dis ça parce qu'en fait, j'ai passé la journée à écrire le pavé numérique, donc je suis très confus. En fait, je travaille sur trop de choses à la fois. C'est un des grands drames de la modernité, c'est que tu peux pas être vraiment rester concentré. L'être humain est né pour faire une tâche par jour. Je devrais avoir un truc le matin, on dit aujourd'hui tu fais ça, tu fais ok, et puis tu le fais. Tu creuses un trou, tu vas chercher de l'eau, puis, je sais pas. Mais dire, tu vas devoir faire ça, puis ça, puis ça, puis entre-temps, t'as des mails qui tombent, on te parle encore d'autre chose, et voilà, et après, tu dis des bêtises. Tu dis que c'est le pavé numérique, alors que non, c'est Scroll News. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on a plein de sujets, qui normalement, vous devez voir si le sujet a bien été changé, c'est à vous de me le dire, parce que j'ai eu quelques mauvaises surprises récemment avec OBS, qui voulait pas me changer l'info des streams. Oui, les temps modernes s'intensifient. Alors, je voulais vous faire une surprise vachement cool au lancement de Scroll News. Alors déjà, oui, pour celles et ceux qui n'étaient pas là dans le pré-show. Maintenant, Scroll News, c'est le mardi. Donc, ne croyez pas l'agenda Twitch. Il ment. Il ment. N'écoutez pas cet agenda. Croyez l'agenda Google, qui est un bon agenda, qui dit la vérité. Et cet agenda est toujours mis à jour. Il est beaucoup plus souvent mis à jour par les membres de la rédaction. Surtout qu'on marche de façon assez décentralisée, pour ne pas dire complètement chaotique. Donc c'est plus facile pour nous de mettre chacun de notre côté nos streams à jour. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder plutôt le calendrier de Google, considérez que c'est le calendrier Google qui fait foi. Le calendrier Twitch, c'est un menteur. Ou les notifications, ça c'est encore autre chose. Donc Scroll News, oui, sera donc désormais le mardi et le pré-show. Une semaine sur deux, le club de lecture, une semaine sur deux, autre chose. Ce sera également le mardi. Bon, pour revenir sur ce que je voulais vous dire, je vous avais prévu un super truc en intro là, je voulais faire un truc super bien et je me suis aperçu genre mais à 17h30 que j'avais oublié de le faire, à 18h30 que j'avais oublié de le faire, j'ai fait merde, donc ce sera la semaine prochaine. Je me suis noté que je le prépare demain, comme ça il sera fait pour la semaine prochaine, c'est sûr. Merci pour ton argent arzéniste, parce que oui, si vous n'étiez pas là au pré-show, maintenant on remercie les gens pour leur argent. Parce que déjà, j'adore prononcer le mot argent. Je trouve que c'est un mot qui sonne super bien. Et puis, c'est quand même plus classe, quoi. Dire merci pour ton soutien, merci JPS pour ton argent. C'est quand même beaucoup plus cool. C'est quand même beaucoup plus cool. Et puis, comme ça, on voit ce qui s'est passé, quoi. On voit que c'est vraiment une transaction sérieuse. On voit les deux mains serrées, là, pleines d'écus et de louis d'or. Il n'y a pas le côté un peu abstrait de ah, merci pour la commu. Non, non, là, c'est de l'argent. Ici, on parle argent. Bon, alors, j'ai pas de super intro à vous faire, je suis désolé, parce que j'ai oublié de la préparer, mais elle sera très bien quand vous l'aurez. Par contre, Ubisoft est bien gentil, parce qu'il m'a fourni un truc de remplacement, dont on va pouvoir parler, qui fera office de lancement. On va même pas mettre du Nutri-Score, parce que comment vous voulez mettre un Nutri-Score à ce truc-là? Le truc en question, c'est ça. Vous l'avez peut-être vu, je refuse des cookies. Merde, je les ai acceptés. Bref, j'ai peur, c'est que je l'ai vraiment pas fait exprès. Regardez, Star Wars Outlaws sortira, donc le qui vous suit, vous n'avez pas suivi, hein. Star Wars Outlaws, merci pour ton argent, Mr. Addings, merci pour tout cet argent, El Flaco, merci beaucoup, merci à toi. Regarde, c'était tellement impressionnant que ça a fait péter le mode nuit. Mais comment ça se fait, ça? Ah non, ça va être compliqué si on n'a plus le mode nuit. Merci pour les abos, El Flaco. Laisse-moi le temps de... Merci Crazy Warthog. Et bon lundi à toi aussi. En fait, j'aurais dû faire du pur gaslighting. J'aurais dû vous dire qu'en fait, on est lundi. Et je vais voir si j'arrive à vous convaincre qu'en fait, on est vraiment lundi. Ça aurait été très bien. Bon, alors, on va espérer que ça ne pète pas à nouveau. Là, pour le moment, c'est redevenu sombre. Merci pour ton argent, RollSafe. Donc, voilà. Star Wars Outlaws, donc l'open world, le grand open world de Star Wars de Ubisoft, connu sous le nom des actionnaires d'Ubisoft, sous le nom de Projet de la Dernière Chance. C'est méchant. C'est méchant. Sortira donc le 30 août. Et je dois vous avouer que, quand j'ai vu tomber ça tout à l'heure, j'ai fait « Ah ouais !» Parce que j'aurais pas cru. Je partais vraiment plutôt pour une sortie fin d'année, parce qu'à l'origine, on sait qu'il était prévu pour début 2024, ce qui semblait quand même un peu optimiste. Et sans surprise, les devs ont dit « Bon, mais pourquoi ça fait ça ?»« Ah non, mais c'est mal fait, attendez !» Voilà, ma tête était beaucoup trop grosse, et le stream, le truc était beaucoup trop petit. Donc voilà, je pensais voir que c'était un peu optimiste, et quand les devs ont dit « Non, non, mais c'est mort, ce sera pas en début d'année », je me suis dit « Ok, c'était prévisible, et ça sera probablement le 31 décembre ». Et non, voilà, le 30 août, donc écoutez, au sortir de l'été, Alors qu'une nouvelle, une nouvelle année de labeur, de dur labeur s'annoncera et se présentera devant nous, eh ben on aura Star Wars Outlaws pour nous remonter. Écoutez, je pense que ça mérite un petit Nutri-Score A, juste pour marquer le coup. Il y aura un report, c'est la tradition. Je sais pas. Je sais pas s'il y aura un report. En fait, merci pour ton argent, Drops. Je sais pas parce que je suis... Comment dire ? Le fait qu'ils fassent l'annonce comme ça, alors qu'il y a quand même beaucoup de... Les specs sont hauts, comme on dit en français, pour Ubisoft, et qu'ils annoncent une date précise après, appelons-le poliment, le fiasco Skull and Bones qui a été repoussé à tel point que c'est devenu quasiment une blague, plus que quasiment d'ailleurs, je pense pas qu'il sera repoussé. Si je devais aujourd'hui mettre de l'argent, votre argent que vous venez de me donner, sur la table... Je dirais, je pense qu'il sortira vraiment le 30 août. Voilà, mais je peux me tromper, évidemment, c'est pas une science exacte. Hein. L'Ubisoftologie, c'est comme les criminologues autrefois, qui essaient de deviner ce que pensait Khrouchtchev en regardant la gueule des ministres. Là, c'est un peu pareil, mais je pense quand même qu'il va sortir le 30. On verra. Il sortira buggy, alors ça, c'est autre chose, non du reel. C'est encore un autre problème. Moi, je parle de date. Moi, je peux. Skull and Bones, on a des nouvelles au fait. Moi, j'en ai pas. Faut demander à. Qui l'avait fait ? C'était Kokobé qui l'avait fait. Hein. Oh, on n'est pas cool avec lui, quand même. Franchement. Mais bon, écoutez, fallait bien que quelqu'un le teste. Bon, maintenant. Alors. Maintenant, ça va être le moment un peu difficile pour vous. Il y a plusieurs grosses actus dans ce Scroll News. Mais on va commencer par une actu. Alors. Je sais pas s'il y a des gens parmi vous qui ont des enfants. Moi, j'en ai pas. Mais donc, je passe du temps à imaginer à quoi ça doit ressembler d'avoir des enfants. Et par exemple, je pense que tous les gens parmi vous qui ont eu des enfants ou qui imaginent des enfants connaissent ce que c'est que c'est, comment dire, le moment où vous avez par exemple votre ado, votre pré-ado qui rentre à la maison et qui fait waouh, c'est terrible, il y a Ariana Polata et DJ machin qui se sont séparés et vous savez absolument pas qui sont ces gens. Et là, mais c'est trop dur, tu comprends pas, ils sont ensemble depuis 3 ans. Et donc, ils vous sortent plein de gossip sur des chanteurs, vous savez même pas si c'est des chanteurs ou des youtubeurs ou quoi que ce soit. Vous connaissez, vous savez absolument rien. Et donc, vous dites, ok, ça a l'air d'être important pour mon fils, pour ma fille. Alors, je vais écouter ce qu'il ou elle me dit. Et vous êtes là, ah oui, c'est passionnant. Et donc, ils étaient ensemble. Ah, et donc, DJ machin, c'est vrai, il a mixé avec Turbo Proop. Waouh, c'est dingue. Et bien là, ça va être un peu ce moment-là. Mais moi... pour vous. Parce que voilà, figurez-vous que la semaine dernière, il y a eu un énorme shitstorm dans la communauté DCS World, donc le simulateur de vol de combat. Et donc, ça n'intéressera probablement personne. Et si je vous dis que Eagle Dynamics et Razbam se sont embrouillés, pour vous, ça doit être à peu près du genre Didi Brouzouf et Kayana Poupouf. Mais non, je vous jure que c'est vraiment... Voilà, il faut que je vous en parle parce que c'est important pour moi. C'est important que je vous en parle. Donc, j'ai quand même essayé de vous expliquer un peu la situation. Et après, j'expliquerai pourquoi finalement c'est pas inintéressant pour vous, notamment en tant que, je sais pas comment dire, lecteur, auditeur, fan, supporter de Canard PC. C'est assez intéressant. Donc, voilà, non, pas eux, bah oui, je sais que ça va être chiant pour vous, mais c'est important pour moi. Donc, ayez pitié d'une personne âgée qui mange de la brioche. Donc, commençons avec comment tout a commencé. Un truc qui est vraiment intéressant, mais ça vous savez sans doute déjà. Si vous avez connaissez un peu les simulateurs de vol et en général, que ce soit Flight Sim ou n'importe quoi, je mets un Nutri-Score A, mais c'est vraiment c'est un Nutri-Score de cœur. Il faut ça donc en gros tous les simulateurs de vol modernes fonctionnent un peu de la même façon. Vous avez une boîte qui développe grosso modo un truc, c'est le produit de base. Hein, Flight Sim fonctionne un peu pareil. Et vous avez aussi quelques avions, mais vous avez aussi des développeurs tierce partie qui créent des avions. Pour ce, voilà, des formes de modules que vous pouvez acheter, généralement très cher, pour ce simulateur. En gros, voilà comment ça marche. Là, c'est un peu la même chose. Et il se trouve que le gros coup de force de DCS l'année dernière, ça a été de dire qu'ils allaient sortir un module pour le F-15E, qui est un avion de multirôle américain, blablabla, peu importe, c'est pas important. Mais en gros, c'était un gros. Voilà, une grosse annonce qui était développée donc par une boîte qui s'appelle Razbam. Alors attendez, parce que au début vous allez être là, c'est chiant. Vous allez voir le niveau de drama qu'on atteint, mais aucun Cyril Hanouna, aucune starlette de la télé-réalité, de la ferme célébrité ou je sais pas quoi, peut arriver à ce niveau de drama. Parce qu'il y a un élément qu'il faut savoir, c'est qu'une dispute entre deux boîtes, c'est, il n'y a rien de plus banal. Surtout que là, vous allez voir, c'est un peu une dispute entre fournisseurs et boîtes qui commandent ce fournisseur, enfin, qui passent des commandes à ce fournisseur, quelque part. C'est vieux comme histoire du commerce. Mais là où c'est... mais là, ce qui est marrant, c'est que les deux sont complètement cinglés. Donc, d'un côté, vous avez Eagle Dynamics qui développe DCS, qui est une boîte qui a quand même des une grosse part de son fonctionnement en Russie, avec une approche très russe de la communication. Donc, en gros, quand les gens ne sont pas d'accord, c'est « vous n'êtes pas content », bah, c'est pareil. Régulièrement, ils insultent des gens sur leur forum, ils effacent les threads quand les gens disent des trucs qui ne leur plaisent pas, etc. Donc, une boîte qui a une conception assez virile de la relation client, on va dire. Et de l'autre côté, vous avez Razbam, qui est une boîte, je crois que le patron est espagnol. Alors, il faut savoir que le patron de Razbam, il est frappadingue. C'est-à-dire que le mec, il est complètement sans filtre. Pareil, il insulte tout le monde, il est complètement destroy, il like et il parle avec des camgirls, avec le compte officiel de la boîte sur Twitter. Le mec, il est taré. Donc, on a un niveau de folie qui est total des deux côtés. Donc, tout est réuni pour que ça explose. Et alors, là où ça devient... Donc, voilà ce qui s'est passé en gros. Il y avait longtemps qu'il y avait des rumeurs, enfin longtemps, quelques semaines, que, ouais, il y a un côté Uwe Boll, ouais. Et donc, depuis quelques semaines, il y avait comme des rumeurs comme quoi ça allait pas très bien chez Razbam, on savait pas trop pourquoi. Et là, Razbam a sorti un communiqué, donc la semaine dernière, je sais plus quel jour c'est, voilà, début de semaine, on va dire, pour dire... non, fin de semaine dernière, pardon. Fin de semaine dernière, je crois que c'était mercredi ou jeudi, pour dire, bon, alors voilà, vous noterez que on n'a pas annoncé de changement, de mise à jour de nos produits récemment, c'était parce que, grosso modo, on n'a pas été payé, Eagle Dynamics ne nous paye plus depuis quelque temps, donc on refuse de continuer à travailler dans ces conditions parce qu'on veut être payé. Parce qu'en gros, ils n'ont pas leur propre store, donc ce qui se passe, c'est quand vous achetez un avion, vous l'achetez à Eagle Dynamics, qui, je suppose, reverse une partie, ils doivent prélever une dîme, et ils reversent le reste à Razbam, parce que là, c'est pas étonnant. Mais donc voilà, en gros, ils disent, on nous paye pas, c'est la merde, faut qu'on trouve une solution, c'est pas tolérable. Merci pour ton argent, Crazy Warthog. Là où c'est, donc là, vous dites, bon, encore une fois, on est dans une embrouille, même si c'est bizarre un peu de laver son linge sale en public comme ça, en général, c'est plus du tout le genre de truc qu'on fait par avocat interposé discrètement, ça reste, voilà, Ron Zambrano, il s'appelle. Jusque-là, on reste encore dans une embrouille entre deux boîtes assez classiques. Là où ça devient drôle, c'est la réponse de Eagle Dynamics, qui répond « Nous accueillons réception du message... » Tout ça est fait en public. Hein. « Nous accueillons réception du message de Ron Zambrano. Donc, il faut clarifier que ces mecs-là, en fait, c'est pas du tout pour des circonstances en dehors de leur contrôle qui sont pas payés, et qui sont pas responsables de la situation. En fait, ils utilisent des trucs qui appartiennent à notre propriété intellectuelle sans notre autorisation. Nous cherchons, du coup, à trouver, un accord avec eux. » Mais alors, ce qui est marrant, c'est que vous dites... En gros, il y a deux hypothèses. Une, que comme quoi ils n'auraient pas fourni un code source qu'ils devaient fournir. Une autre, qu'ils auraient vendu à des aviations militaires d'Amérique du Sud des simulateurs professionnels, on va dire, qui utilisaient une partie du code de Eagle Dynamics sans avoir le droit de le faire. Bon, dans les deux cas, c'est pas cool, mais ça, c'est un truc qui se règle devant les tribunaux. Mais eux, comme c'est des Russes, ils ont réglé ça en disant bon, on va arrêter de les payer pour un truc qui n'a rien à voir. Parce qu'en l'occurrence, les ventes du F-15 n'ont rien à voir avec ça. Donc, ils sont pas allés chercher des réparations. Donc, tout le monde est monté dans les tours. La réponse là, merci pour ton argent, Captain Capt. Ça a fait monter tout le monde dans les tours. Ce qui est rigolo, c'est que c'est là où on voit que le truc n'était plus du tout contrôlé. Les développeurs eux-mêmes de Razbam ont commencé à parler publiquement sans demander l'aval de leur patron, qui de toute façon est fou. Donc, ils ont débarqué en disant « Mais on sait qu'ils nous... » Là, en l'occurrence, c'est le mec qui fait les modèles 3D qui a débarqué en disant « Mais de toute façon, on sait qu'ils nous payent pas, il invente, le mec de Eagle Dynamics raconte n'importe quoi, de toute façon, tout ça, c'est magouille et compagnie, de toute façon, moi, j'en ai marre, je me casse. » Il y en a un autre, qui est le mec qui fait les modèles de vol, qui a dit qu'il n'en avait plus rien à foutre, peu importe comment c'était résolu, il se cassait, il voulait plus rien avoir à faire avec eux. Donc, c'était un bordel sans nom. Merci, Agassan, pour ton argent. Donc, c'était un bordel, mais hallucinant. Et ça s'est fini, donc, avec, finalement... un communiqué de Razbam qui a dit Chers clients, chère communauté, nous cherchons... Il y a quelqu'un qui a dit, on sent qu'il y a un avocat qui lui a fait écrire ça avec un flingue sur la tempe, et c'est un peu l'impression que ça donne. Nous cherchons activement un moyen de tomber d'accord avec Eagle Dynamics pour résoudre cette dispute interne. Nous ne voulons pas que ces déclarations publiques continuent à escalader. Il n'a jamais été de notre intention d'abandonner nos produits, alors qu'il y avait des développeurs qui disaient « Moi, je me cache, j'en ai plus rien à foutre, vos machins, vous démerdez avec, vous avez payé, tant pis, sale pigeon. » Donc, en gros, c'était... Et là, vous dites, c'est dingue, parce que là, depuis, donc ça, c'était, je crois, je ne sais plus, vendredi ou samedi, c'est... Enfin, la question, c'est comment est-ce que, après avoir atteint ce niveau de chaos en public, vous récupérez le truc derrière ? Comment est-ce que vous récupérez la confiance de vos clients après un truc pareil ? Parce que ça a foutu une panique générale. Comme DCS, c'est quand même un tout petit truc, c'est très très niche. C'est des gens qui sont. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a aucun jeu équivalent quasiment. Enfin, il y a des trucs un peu pareils, mais il n'y a pas vraiment de jeu équivalent. Donc les gens sont très impliqués dedans. Ils ont souvent investi énormément d'argent dans des périphériques ou dans des modules. Donc ils n'ont pas envie que ça capote. Et donc ils flippent à mort. Donc la communauté de base, elle est aussi composée de gens complètement tarés qui sont partis en mode ça y est, ils ne les payent plus. C'est que Eagle Dynamics n'a plus d'argent. Donc le jeu, il va s'arrêter. Dans deux mois, ils sont morts, etc. Merci Felipe pour ton argent. Et vous savez pourquoi je trouve ça intéressant ? C'est parce que voir ça. Moi, j'ai bouffé du pop-corn en lisant le Reddit DCS pendant 3 jours, là. Et je me suis dit, mais en fait, c'est l'occasion pour moi de voir Canard PC de l'extérieur. Parce que le côté, dans 3 mois, ils sont morts, j'espère que ça va bien dans la rédac, qu'est-ce qui se passe, il y en a un qui a dit ça, putain, j'espère qu'il n'y a pas de problème, alors que nous, on est là, bah non, tout va très bien, non ? Ou alors, il y a eu un petit problème, mais c'est bon, c'est réglé. Et les gens qui escaladent le truc à mort dans leur tête... Et je me dis, c'est vrai que quand tu le vois d'eux, parce que toi, forcément, je suis dans le secret des dieux pour Canard PC, donc je vois qu'il n'y a rien de grave. Mais c'est vrai que quand vous êtes attaché énormément à quelque chose dans une communauté, mais que vous voyez le truc qui peut potentiellement exploser de l'extérieur, il y a un côté assez anxiogène, quoi, de dire comment est-ce qu'on... Voilà, c'est super rigolo à ce niveau-là. Parce que c'est vraiment typique des petites communautés très investies dans un produit de niche. Et je trouve que c'est vachement intéressant, en fait, de voir... parce que déjà, c'est fait par des gens un peu cinglés, comme souvent les petites communautés un peu particulières. Les fans sont très, très impliqués et sont... Bah oui, mais ils s'inquiètent aussi, Rindaman, c'est ça. Donc, ils s'inquiètent énormément au moindre signe sur la... mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? C'est la fin, etc. Et donc, je trouve ça vraiment, vraiment rigolo. Parce que c'est à la fois presque intéressant d'un point de vue sociologique, quoi. Ça permet de voir à quelle vitesse une tempête peut monter dans une petite communauté. Et en plus, il y a un côté people, quoi. Parce que vraiment, quand vous avez deux personnes complètement frappadingues, qui, enfin, n'importe quelle boîte normale aurait réglé ça derrière porte close, par avocat, et si quelqu'un avait des torts, bah, ils auraient demandé des réparations, quoi. Mais là, le fait qu'ils disent « on refuse de les payer », tant qu'ils n'auront pas plié à nos demandes, à tel point que les autres sont obligés de prendre les clients à témoin pour dire « Non mais regardez, on ne nous paye pas, bah, du coup on arrête de bosser », c'est sidérant, c'est un truc que j'ai pas vu, enfin, incroyable. Bref, donc voilà, c'était le petit moment où je me faisais plaisir, on peut reprendre la véritable actualité du jeu vidéo maintenant. La véritable actualité du jeu vidéo, c'est avant tout Disney. Voilà une petite boîte pour laquelle on n'est pas inquiet financièrement. Donc, Disney va muscler sa division jeux vidéo. Merci pour ton argent, Sparkwad. Notamment, là, ils ont recruté des gens d'anciens de Blizzard et d'Ubisoft, qui est apparemment des gens assez costauds en termes de... Oh, merci Papy Poulet pour tout cet argent. Merci beaucoup à toi. Merci. C'est grâce à toi que Canard PC n'est pas dans le même état que Razbam à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est oui, des gens qui possèdent la planète Terre, exactement. Maintenant, ils se mettent au jeu vidéo. Alors, faire attention, parce que le jeu vidéo, c'est un peu quand même le truc sur lequel beaucoup de gens qui pensaient être très très forts et indestructibles et avoir une quantité d'argent infinie sont cassés les dents. Rappelez-vous de Amazon. Mais bon. Donc voilà, ils vont. Donc les développeurs, et ça, je trouve cette phrase tellement triste. Donc voilà, Ray Gresco, qui est un ancien Chief Development Officer dans World of Warcraft, machin. Il a rejoint Disney Games comme senior vice-président, bon, ok. Et leur attention, ces gens-là, ils vont travailler pour permettre aux clients de Disney de jouer, de regarder, d'acheter et de participer, en gros, de faire des choses avec du contenu de Disney, de Pixar, de Marvel, de Star Wars et d'Avatar. Et ça, je trouve que c'est une phrase terrible. Genre, imaginez, tu te réveilles, on imagine un truc un peu genre le procès de Kafka, quoi. Tu te réveilles le matin, il y a quelqu'un qui frappe à ta porte. Et là, c'est deux hommes en noir qui te disent « Vous avez été jugé et condamné. Désormais, vous allez devoir produire du contenu pour que nos clients puissent s'amuser et regarder le contenu Disney, Pixar et Marvel. Tu te dis, putain, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Quel enfer! Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je trouve ça absolument terrible. Bon, voilà. En tout cas, toujours est-il que, voilà, si c'est quand même des gros bras et des gens avec un sacré CV. Cool, j'ai envie de dire. On aura peut-être des bons jeux Star Wars après que celui d'Ubisoft sera planté. Non, je rigole, c'est une blague. En plus, ça se trouve, il sera bien celui d'Ubisoft. Donc, voilà, je sais pas ce qu'ils font en pratique. Mais c'est vrai que Disney, c'est vraiment devenu énorme. Ouais. Donc, je sais pas ce qu'ils vont réussir à faire avec cette histoire de jeu, mais en tout cas, ils ont vraiment l'intention, voilà, d'investir beaucoup dans le jeu vidéo, on va le voir. Oui, ils avaient déjà vu, ils en parlent d'ailleurs à la fin, hein, qu'ils vont investir dans Epic à hauteur de 1,5 milliard. Milliard. Toujours 1 milliard et demi. Bon, pourquoi pas? C'est assez énorme. Mais donc, ouais, ils voient clairement le jeu vidéo comme peut-être un moyen de continuer à croître, alors que là, le côté ciné, ça va pas très fort ces temps-ci. Je sais pas. Voilà, c'est ça l'actualité du jeu vidéo. Hein. Écoutez, vous voulez pas du drama entre mecs tarés qui font de la simulation de vol? Vous voulez le vrai jeu vidéo des familles? Bah, c'est ça. C'est Disney qui investit dans Epic Games, écoutez. Après, on lira des rapports faits aux actionnaires. On dira, ah oui, là, les dividendes, ils sont pas mal. Et voilà, ça sera ça. Puis après, des gens viendront nous dire qu'on doit produire du contenu Marvel et Pixar. Voilà, c'est la vie que vous avez choisie. Bon, bah, écoutez, je vous juge pas. Hein. On va parler de quelque chose d'un peu différent, mais toujours en lien avec le jeu vidéo, notre grande passion. D'ailleurs, c'est marrant, je me dis, c'est vraiment une particularité de Canard PC, c'est que c'est... Je regardais d'autres chaînes de jeux vidéo sur Twitch, sur YouTube, tout ça, et à chaque fois, les gens, ils sont là. Ouais, c'est le gaming, c'est wow, c'est trop bien. Alors, ils le font plus ou moins. Ou ils parlent comme des ados attardés, ou ils parlent un peu plus comme des adultes, selon le niveau, selon leur âge, selon leur audience cible, etc. Mais il y a toujours quand même ce côté, ouais, on est des passionnés qui parlent à des passionnés. Canard PC, quand je regarde des replays, c'est toujours les gens qui arrivent en disant eh ben, va falloir parler de jeux vidéo aujourd'hui. Eh ben, tiens, c'est vraiment un ton très particulier. Ça rappelle les gens qui disaient que Télérama, c'était le journal télé qui n'aimait pas la télé, et c'est un peu ça, quoi. Donc bref, le jeu vidéo. Truc rigolo, pour le 1er avril, Sea Shepherd, une association de défense de l'environnement, a fait une version trafiquée, enfin un mode, plus ou moins... Ah non, je veux pas de son, tais-toi. Chut, chut, voilà. Mais non, voilà. Mais pourquoi je mets mon casque alors qu'il n'y a pas de son, c'est idiot. Donc c'est assez rigolo, ils ont fait une sorte de mode, en fait, à but militant. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont présenté un mode dans lequel les poissons avaient disparu. C'est un dev diver sans poissons, ce qui est absolument absurde. Merci Zenodius pour ton argent. Mais je trouvais ça assez rigolo de dire, voilà, c'est un moyen de dire, pareil, bon, c'est pour évidemment dénoncer la surpêche et la destruction des stocks de poissons, en quelque sorte. Et pour dire, ah bah, si vous continuez à surpêcher pour vos restaurants de sushi, bientôt il n'y en aura plus. Mais je trouve ça quand même assez marrant. Je trouve ça assez... J'espère qu'il est considéré comme une organisation terroriste au Japon. Écoutez, j'ai envie de dire, chacun voit le terrorisme à sa porte, et je n'ai aucune opinion sur Sea Shepherd, je ne sais absolument pas ce qu'ils font, en fait. À part ce mode de toute façon, ils sont barrés dans le jeu de Noël Malware. Mais oui. Non, mais j'en sais rien, en fait. Ça se trouve, c'est vraiment des terroristes. Hein. Ça se trouve, c'est des salauds. Mais ils font des modes. Cela dit, si jamais c'était vraiment une organisation terroriste, genre Daesh fait un mode à but... Le recrutement, ce serait quand même extrêmement curieux, mais ce serait quand même aussi une actu intéressante. Mais bon, non, en tout cas, voilà, là, ils ont fait un mode, et je trouve ça rigolo. Ça a des jeux militants, il y en a eu plein. Ça, je me rappelle, pendant les dernières élections, il y avait LFI qu'on avait fait, etc. Des modes comme ça, modder un jeu pour faire dire, regardez, on joue sur le mécanisme du jeu pour faire passer un message politique. Je trouve ça intéressant. C'est un truc qui, à ma connaissance, n'a jamais été fait. Donc c'était assez rigolo, voilà. C'était un petit... ils sont agressifs contre les baleiniers et autres. Oui, c'est vrai, mais est-ce que les baleiniers ne sont pas ceux qui ont commencé? Moi, j'en sais rien. Hein. Moi, je m'éclaire uniquement à l'huile de baleine. D'ailleurs, là, regardez, je vais baisser un peu la lampe. Hop, voilà. Donc, je suis mal placé pour juger. Mais néanmoins, c'est quand même les baleiniers qui ont commencé. Super, maintenant j'ai... Ah, mais j'ai plus d'huile. Attendez, j'arrive pas à rallumer mon... Voilà. Ils ont une image moins agressive par rapport à la qualité. Alors ça, c'est passionnant parce que je vous vois parler de Sea Shepherd. En fait, je ne connais pas grand-chose sur Sea Shepherd, à part le fait... Alors, il y a deux trucs, en fait, dans Sea Shepherd que je sais. Déjà, donc, ils s'occupent des baleines et des poissons. Et puis, leur nom ne va pas du tout. Parce que c'est les bergers de la mer, en fait. Et ça n'a aucun sens. C'est comme les poissonniers des Landes, quoi. C'est, ça n'a... Enfin, je sais pas. C'est, au bout d'un moment, réfléchissez, messieurs. Messieurs les terroristes. Bon, allez, une vraie actu, maintenant. Enfin, une vraie actu, genre une grosse actu du Nutri-Score A et tout, un truc dont on pourra parler sans avoir à tirer à la ligne. Puis quand on aura fermé les 12 pop-up. Alors, les jeux vidéo, d'après le United States Consumer Financial Protection Bureau, ou CFPB, en gros, c'est le truc de protection des consommateurs américains, hein. C'est pourquoi il y a écrit Consumer et Protection, n'est pas content contre les jeux vidéo. Pourquoi il n'est pas content contre les jeux vidéo ? Ils amèneraient les poissons à l'abattoir, JFD, ils trairaient les poissons dans des stabulations. Enfin voilà, c'est pas vraiment ça a rien à voir avec l'agriculture, la défense des baleines, rien. Mais bon, est-ce que vous voulez? Oui, contre les JV en ligne, oui, bien sûr. Mais alors, parce que pourquoi ils sont pas contents? Parce qu'ils disent que les JV sont en train de devenir des banques. Et c'est intéressant parce que c'est-à-dire que si jamais vous jouez un peu un rôle de banque ou un rôle d'établissement financier au sens large, ben, vous avez quand même des obligations légales assez monstrueuses et nombreuses qui s'imposent à vous. Or, dit celui qu'on va publiquement appeler le CFPB, les jeux vidéo sont déjà devenus un peu des banques. Pourquoi ? Parce que les jeux vidéo, alors déjà introduisent sur la première introduction pour beaucoup de jeunes à une forme d'activité liée à l'argent, etc., avec les microtransactions, ce qui est un vrai problème. Mais c'est aussi il y a aussi un truc qui est intéressant, c'est que les jeux vidéo avec les microtransactions, ils permettent d'acheter des biens, donc des jetons, quelque part, qui ont une valeur. Or, les jeux vidéo, enfin, les éditeurs de jeux vidéo disent « Ouais, mais non, c'est pas vraiment une banque. Pourquoi ? Parce que ces jetons qu'on acquiert, n'importe quoi, des skins Counter-Strike, ce que vous voulez, ou des microtransactions de quelque nature que ce soit, ne peuvent pas être reconvertis en monnaie liquide, si vous voulez, et en argent, quoi, en devise. » Or, c'est faux, dit le CFPB, parce que on leur la fait pas, ils ont business dans leur... Non, c'est pas business, c'est bureau. Ils ont bureau dans leur nom, alors imaginez si on leur la fait pas. Parce qu'ils disent qu'en fait, il y a ces marchés donc, qui sont censés être clos, les marchés des microtransactions et des objets virtuels in-game, c'est en fait assez poreux. Parce que de plus en plus, on l'a vu avec les skins Counter-Strike, mais on le voit ailleurs, il y a des moyens, que ce soit par des marchés tiers ou alors par des choses in-game, etc., des échanges in-game entre joueurs, on peut acheter, reconvertir en argent ces choses qui ont été achetées. On peut donc spéculer sur leur valeur et surtout, simplement, ben, on peut utiliser ça comme réserve de valeur. C'est-à-dire que vous pouvez dire, bah, aujourd'hui, si jamais vous avez la certitude de les vendre, vous pouvez dire, bah, je vais stocker de l'argent en skin Counter-Strike ou en machin cosmétique dans un jeu que je revendrai plus tard. Et de fait, ça en fait une banque. Et c'est parce que oui, vous stockez de la valeur dedans, en fait. Et dans ce cas, les casinos sont des banques, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème avec les casinos aussi, JFDJ. C'est pour ça que les casinos sont ultra, ultra surveillés. D'ailleurs, un détail assez marrant. J'étais à Bruxelles, vous le savez, il y a quelques semaines, pour ceux qui suivent ma vie avec intérêt, je sais pas pourquoi. J'étais allé dans une salle d'arcade en Belgique, donc à Bruxelles, par curiosité, parce que je vais jamais dans les salles d'arcade. Et c'était un truc qui marchait avec des jetons, etc. Et des tickets, en fait. Quand vous pouvez jouer à un truc, vous tirez au pistolet sur un truc genre Virtua Cop et tout, et selon votre performance, vous recevez des jetons, enfin vous recevez des tickets que vous pouvez échanger après contre des lots. En gros, c'est une fête foraine, quoi. Jusque-là, normal. Et donc, j'ai discuté un peu avec les gens là-bas, le mec qui tenait ça, qui m'a dit, je lui ai dit, mais putain, vous comptez installer ça en France, que j'en ai jamais vu. Parce que c'est une chaîne, apparemment, ils en ont 3 ou 4 en Belgique, j'ai oublié le nom. Et le mec m'a dit, bah non, on peut pas, on aimerait bien s'installer en France, mais on peut pas, à cause des régulations sur les casinos. Parce que figurez-vous que, comme eux, ils utilisent un système donc de tickets, eh ben, ils tombent sous le coup des régulations sur les casinos, qui sont extrêmement rudes en France. Et donc, ils peuvent pas. Juste, voilà, parce que vous pouvez très bien thésauriser des tickets, ce qui fait que, bah, y a ce même problème-là, de dire que finalement, vous avez accès à des jetons qui sont convertibles en argent, bon, en l'occurrence là en lot, mais néanmoins, il y a quand même une conversion possible, et c'est... Non, c'était pas Family Game Center, je crois pas que c'était ça. Bref, en tout cas, je trouve ça super intéressant de voir qu'eux, ils ne pouvaient pas, à cause de ça, ils m'ont dit, c'est leur système de tickets qui pose problème, parce que légalement en France... Même s'il n'y a pas du tout de jeu de hasard et que c'est des jeux de skill, bon, de skills tout pété, hein. C'est des trucs piou piou piou, bam bam, boum boum, des petits jeux de bagnole, trucs comme ça. En gros, c'est des jeux vidéo d'arcade, quoi. Néanmoins, il y a des jetons, donc c'est un casino. Et du point de vue du législateur. Ouais, en France, c'est uniquement dans les villes d'eau, confit de canard, ou en bord de mer, ou dans des trucs très très spécifiques. Il y a quelques dérogations. Il est question d'élargir un peu le truc dans le cadre du grand plan « Cherchons des thunes où on peut en trouver », qui est actuellement en place à la tête de l'État. Mais actuellement, ouais, c'est uniquement les villes d'eau et les... Donc oui, je trouve ça intéressant. Et donc là, c'est vrai que de ce point de vue-là, on peut poser la même question aux jeux vidéo, et même d'autant plus que là, les tes skins et tes tickets, en quelque sorte, non seulement tu peux les convertir en ours en peluche, mais tu peux tout simplement les convertir en argent, en fait. Donc c'est n'importe quelle ville peut devenir ville d'eau. Mais de toute façon, avec le réchauffement climatique pour Chocolatine, et de plus en plus de pluies diluviennes qui vont tout dévaster, bientôt il n'y aura plus que des villes d'eau. Donc on aura des casinos. Donc ça, c'est un avantage. Les gens sont là, ouais, le dérèglement climatique, catastrophe. Non, il y a des avantages. On aura des casinos et des fleuves dans toutes les villes. Ça, c'est quand même pas mal. Donc voilà, je trouve ça quand même assez intéressant. Cette possibilité de le fait que bah, voilà, les jeux vidéo qui proposent ce genre de microtransactions peuvent légalement être considérés comme des pseudo-banques, quoi. Je trouve ça intéressant. Je vous mets l'article de Kotaku que vous pourrez lire avec intérêt ou sans intérêt. Vous pouvez aussi le lire en faisant pff, je vous laisse mettre de votre destin. Mais je trouve ça assez intéressant. Je vais noter, il fallait que je vous rappelle ça. C'est vrai qu'il y a aussi une question de l'argent qui est stocké. Je me rappelle qu'en lien avec cette histoire, il y a quelques années, il y avait eu une sorte de, pas de scandale, mais ça avait beaucoup fait parler, parce que des gens s'étaient rendu compte que Starbucks avait plus d'argent que certaines banques. Et ce qui était bizarre, parce que dit putain, une chaîne de café qui a plus d'argent que certaines banques. Et pourquoi? C'est qu'en fait, à l'époque, les cartes de fidélité de Starbucks, en fait, vous pouviez pas juste, c'était pas juste une carte de fidélité standard qui vous donne droit à une réduction ou à des points, etc. C'était grosso modo des cartes de crédit. C'est-à-dire, en gros, on les chargeait avec des thunes et après, on les utilisait pour payer. Et on avait des ristournes au bout d'un certain nombre de boissons, etc. Et le problème, c'est que ça veut dire qu'à un instant donné, il y avait des millions et des millions de dollars qui étaient stockés sur des cartes Starbucks. Ce qui fait que Starbucks, de fait, était une sorte de banque. Alors certes, votre argent, vous ne pouviez pas le sortir, à part pour en faire des cafés. Bon, vous pouviez après revendre les cafés, mais après, il faut trouver quelqu'un qui veut acheter un café Starbucks, c'est autre chose. Mais je trouve ça super intéressant de voir qu'il y avait ce côté qu'une chaîne de café fonctionnait en fait comme une banque, quelque part, et avait un stock de liquidité, enfin pas de liquidité, mais de valeur stockée qui dépassait celui de certaines banques. Pepsi a été la deuxième puissance maritime mondiale. Ah ça, je ne savais pas. Je sais que c'est pour ça qu'ils ont essayé de faire gagner un Harrier une fois, et qu'ils se sont fait avoir une longue histoire, on en parlera un jour, parce que c'est complètement, on sera encore plus hors sujet. Mais donc je trouve ça intéressant de voir qu'il y a beaucoup en fait, d'entreprises qui, de par le fonctionnement qu'elles ont à travers des produits qu'elles vendent ou des fonctions qu'elles offrent, qui peuvent fonctionner finalement comme des banques, quoi. Mais quel monde de fous? Mais oui, mais le Gare du Nord, c'est un monde de fous. Alors allons-y pour l'actu suivante, alors qu'il y a une actu moins rigolote. Donc on va mettre Nutri-Score B, parce que c'est un peu comme quand vous voyez une très mauvaise nouvelle sur un réseau social, vous ne pouvez pas liker. Même si l'actu est bien présentée et tout, vous dites, ah vous avez toujours une sorte de scrupule à liker un truc qui était genre 8 personnes écrasées par un rouleau compresseur, vous n'allez pas liker. Vous faites, ah quand même. Donc là c'est un peu pareil, je ne peux pas mettre un Nutri-Score A, je vais mettre un Nutri-Score B. Donc. Mais c'est quand même une actu intéressante. Alors, on va parler donc des développeurs de Life in Strange. Alors, attention, pas de Dontnod, mais de Deck Nine, donc qui est américain, et qui a fait, alors je les avais notés, oui, qui a fait le préquel, parce que je ne suis pas tout à fait à jour sur la chronologie des Life in Strange, hein, je suis honnête avec vous. Il y avait ils ont fait Before the Storm, qui était un préquel en 2017, et ils ont fait Life is Strange True Colors en 2021. Voilà. Donc, ils ont fait des Life in Strange. Merci, Mr. Bourg, pour ton argent. Qui ont été vraiment très bien accueillis par la critique, notamment bien accueillis par la critique aussi, parce que c'était des jeux qui, comme toujours Life is Strange, faisaient un travail, c'était vraiment irréprochable en termes d'inclusivité, en termes voilà, de discours politique, c'était vraiment des choses qui avaient avancé pas mal le discours qu'on avait d'habitude dans les jeux vidéo. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on apprend que chez Deck Nine, c'était abominable. C'est-à-dire que non seulement il y avait du crunch, j'ai plus savoir qu'en faire, mais en plus le patron était une sorte de gros creep qui faisait des avances à quasiment toutes les meufs. Et c'était à tel point que le management était pourri. Bon, ça, vous me direz, boîte de jeux vidéo 101, les gens se plaignaient qu'il y avait des trucs qui allaient pas, personne ne leur répondait jamais, etc. Et surtout, le truc qui est dingue, c'est qu'ils commençaient à retrouver dans le jeu, dans des trucs de développement, des références discrètes à des trucs nazis, notamment. Et en fait, c'était qu'il y avait des développeurs qui, en gros, dans le cadre de blagues potaches, on voit le genre de blagues, me faisaient des références nazies, racistes, enfin des mêmes racistes, etc., dans du contenu. Et je trouve ça vraiment... Voilà, c'est très rigolo parce que... moi, j'imaginais que tous les développeurs de Life is Strange, c'était des communautés hippies, quoi. Que dans tous les gens qui travaillaient sur Life is Strange, ils se retrouvaient, ils jouaient du tam-tam dans l'herbe. Pas du tout. C'est aussi pourri qu'ailleurs, figurez-vous. Mais quand je dis potache, entre guillemets, parce que c'est comme ça que c'est présenté toujours ces trucs-là. C'est genre, oh là là, c'est potache. Et en fait, c'est un truc qui est humiliant pour les gens dans la boîte. Toutes les cultures de... Tous ces trucs-là, toutes les cultures de bizutage, toutes les cultures de tous les trucs de broculture dans les boîtes, c'est toujours le côté oui, c'est potache. Et en fait, c'est voilà. Regarde, je mets les guillemets. Je devrais avoir un truc qui fait des guillemets flottants que j'appuie sur un bouton. Bref, c'est un truc, ça a été très critiqué à une époque. Les gens se moquaient des gens qui faisaient ça. Genre, je trouve ça vachement bien, moi. Je pense qu'on devrait faire tous les signes de ponctuation comme ça. Genre, tu mets un point virgule comme ça, ça serait super bien. Hey, merci les raiders, merci Rega Twitch, merci, salut à tous. On vient de quitter une actualité tragique, donc, parce qu'on fait toute l'actualité du jeu vidéo, et ainsi que pas mal de digressions quand même. Et là, on parlait des scandales qui ont récemment eu lieu chez Deck9, qui est donc le développeur du prequel, notamment de Life is Strange, où on s'est rendu compte qu'il y avait des développeurs qui mettaient des blagues, entre guillemets, nazis, et qu'il y avait du harcèlement dans le studio, etc. Donc c'était donc on parlait de ça et on va passer parce que on va pas accueillir des gens qui viennent d'arriver comme ça dans un stream plein de bonne volonté, plein de joie de vivre avec une nouvelle tragique. On va les accueillir avec une nouvelle joyeuse. Ah bah tiens, ça c'est rigolo, tiens. Hop, on va mettre ça, c'est marrant. Alors on est sur du Nutri-Score. J'ai mis quoi pour ça? Ouais, j'avais mis B. On va rester sur Nutri-Score B. Oui, si vous venez d'arriver dans Origami, il faut savoir qu'ici on utilise un Nutri-Score pour mesurer la qualité de l'information. Donc là, on reste sur du Nutri-Score B, avec donc des... Alors, on avait parlé des modes pour Skyrim, parce que, pour deux raisons. Déjà, parce que cette émission est grosso modo une paraphrase de la newsletter de Koub, hein, je m'en cache même plus maintenant. Donc, comme Koub parle beaucoup des modes Skyrim, naturellement, je parle beaucoup des modes Skyrim. Vous savez, c'est un peu comme les poissons, ils mangent des métaux lourds, donc vous mangez des métaux lourds. Je suis au bout de la chaîne alimentaire, je mange Koub, qui a mangé l'actualité. Et l'autre fait, c'est que ça m'intrigue vraiment beaucoup. Salut Koub, justement, au passage. Un autre truc qui m'intéresse beaucoup, c'est que Skyrim étant quand même le bac à sable ultime, on y trouve des modes complètement tarés. Et donc, il y avait le mode, la dernière fois, on avait parlé, qui était très très drôle. C'était sur des... Je résume aussi pour les gens d'Origami qui viennent d'arriver. C'était un mode qui disait que sur les cadavres des gens que vous tuiez, vous trouviez des lettres. Où on avait un petit peu des éléments de leur vie, et du coup vous vous sentiez très très mal de les avoir tués, parce que vous tuez un bandit, et vous aviez j'ai tellement hâte de te retrouver ma bien-aimée, bientôt j'aurai assez d'argent pour qu'on puisse acheter une maison tous les deux, et t'es là, oh qu'est-ce que j'ai fait, et donc j'ai trouvé ça très rigolo, et donc là il y a un autre truc qui a été rajouté récemment qui est en effet un des très gros défauts de Skyrim. On sait que Skyrim c'était un jeu dans lequel pour l'époque la bouffe était vraiment bien. C'est un jeu dans lequel ils ont passé très très longtemps à modéliser des miches de pain, des toutes sortes de gâteaux et de trucs à bouffer. Mais c'est vrai que ça ne pourrissait pas. La nourriture ne pourrissait jamais. Et là maintenant, on a un moyen de faire... En plus, la nourriture avait vu que quand même Skyrim, visuellement, ça avait un peu des limites à l'époque. La bouffe paraissait... Enfin, moi, ça m'a toujours donné cette impression-là. La bouffe dans Skyrim, on dirait qu'elle est vernie. Vous savez, on dirait les faux trucs qu'ils posent dans les boulangeries pour dire « Ouh, ici, on fait du bon pain !» Et ils posent une miche de pain en plastique. Et ben, toute la bouffe de Skyrim, elle ressemble un peu à ça, pour moi. Et ben là, voilà. Là, ils ont fait il y a un mode pour que la nourriture pourrisse. Et je trouve ça génial de penser que, quand même, Skyrim, bon, c'est pas Oblivion, mais c'est pas Morrowind. Tu vois, ça reste quand même un jeu très grand public... Ouais, plutôt simple d'accès, plutôt... Enfin, je vais pas dire feel good, c'est pas non plus un jeu... C'est pas un jeu indé wholesome et tout, mais... Voilà, c'est un jeu très accessible, très sympa, c'est du RPG grand public, quoi. Et je me dis, si vous ajoutez tous les modes qui font que les morts deviennent tragiques, les gens ont des hémorragies, vous mourrez de faim, la nourriture pourrie, etc. À la fin, vous avez un truc, mais qui est genre l'expérience vidéoludique la plus hardcore qu'on puisse imaginer. C'est un machin, mais personne peut y jouer tellement c'est dur et glauque. Et tu marches dans la boue, il faut t'amputer les orteils parce que t'as eu froid, etc. Je trouve ça génial que les gens aient modifié un jeu finalement aussi vraiment très très vraiment le jeu de rôle grand public le plus casu. Je dis ça sans aucune, c'est pas du tout péjoratif. Hein. J'aime beaucoup Skyrim, mais c'est vraiment pas, c'est pas un jeu hardcore quoi. Et le fait qu'ils aient, au fil des modes, ils aient rajouté tous ces trucs-là, je trouve ça génial. Alors, il faut vous dire, juste préciser, parce que je vois mon reflet dans OBS, que la lumière est extrêmement vive et uniquement d'un côté de ma tronche, ce qui fait qu'on dirait que je suis dans une crypte. Mais enfin, ça fait très histoire d'horreur avec le mec avec sa lampe sous le menton. En fait, c'est que j'ai pas allumé la lampe principale, donc je suis quasiment dans le noir, sauf une seule source de lumière. Oui, voilà, c'est le Long Dark Rim, exactement, Macabre. Et je trouve ça vraiment génial. C'est ce pain rassis m'a rassasié, ouais. C'est comme, je me rappelle, Ultima Underworld était bien pour ça, parce que la bouffe pourrissait, et non seulement quand vous mangez de la bouffe pourrie, le personnage, si elle était vraiment trop pourrie, que vous en mangez trop, vous pouviez être empoisonné, mais en plus, il y avait différents bruits quand vous mangiez, genre, ils ont dû tellement se marrer à enregistrer ça, et alors quand vous mangiez un bon truc, ça faisait, et quand vous mangiez un truc dégueu, ça faisait, et c'était une sorte de vieux bruit infâme, et c'était vraiment très chouette. Franchement, il faudrait qu'on refasse du atmosphère, ce cartilage d'ailleurs, c'était bien. Alors une nouvelle semi-tragique, donc on va passer sur du Nutri-Score C, parce que c'est un peu comme si vous mélangez un produit très sain, par exemple, je sais pas, des haricots, avec un produit pas sain du tout, par exemple du Roquefort, donc Nutri-Score A et Nutri-Score E, vous mélangez les deux, vous obtenez du Nutri-Score C. On va regarder ça avec... On commence par la mauvaise partie de la nouvelle, hein, comme le veut la coutume. Donc la mauvaise partie, la voilà. C'est que, c'est parti c'est pour vous, hein, parce que moi j'avais même oublié l'existence de jeu. Star Trek Infinite, apparemment, qui avait fait un four partout et qui avait eu une très très mauvaise critique, a été abandonné 6 mois seulement après sa sortie. Alors, je dois vous avouer que j'ai vu ça passer. En fait, c'est juste une intro à la véritable information. Donc détrompez-moi si j'ai une connerie, parce que je dois vous avouer que je ne l'ai pas du tout suivi. Et vu qu'en général, je ne suis pas trop les jeux paradoxes parce que j'ai peur. Apparemment c'est pas... Mais... Ah non, le Roquefort c'est Nutri-Score E. Hein. Merde, attendez, j'ai ma lumière qui fait n'importe quoi. Ah c'est... Ah, mais pourquoi c'est très puissant comme ça? Bref. Bon, on va éteindre. Voilà. C'est super impressionnant. Dans le noir, c'est très impressionnant. Donc, c'était un jeu PC, ouais. Et alors, attendez, on va le regarder sur YouTube, à quoi ça ressemble. Sur Steam... Star Trek Infinite. Alors, ça ressemblait à quoi? On va regarder ça. Allez, on va regarder la vidéo. Comme ça, on verra à quoi ça ressemblait. Comme ça, on verra ce à quoi on pourrait pas jouer. Ah, mais il n'y a pas de gameplay? Moi aussi, je peux dessiner des Klingons. Ok. Ça n'a pas une gueule, le jeu paradoxe. Oui, et ben, Pan Chocolatine, pareil. J'ai appris son existence avec la fermeture du truc. Bon, après, je suis pas extrêmement fan de Star Trek, mais le simple fait que Paradox édite un jeu Star Trek, c'est une information intéressante, je trouve. Ah, voilà, là, on verra peut-être du gameplay. Ah oui, là, c'est déjà plus Paradox dans l'esprit. Ok, donc c'est Galactic Civilization avec une skin Star Trek, quoi. Voilà, donc c'est ça. Et ben, écoutez, voilà, il y aura pas de suivi et ça marche pas du tout, apparemment. Non mais le pire, Papy Poulet, c'est que je sais qu'il y a dans ce chat des gens qui sont capables de parler en Klingon. Je le sais. Et parce que je connais mon public et ça me fait très peur. Donc j'essaye un peu de nier ça, vous savez. C'est comme une relation qui va pas bien, quand on essaye de passer outre les problèmes avec la personne, on dit non mais en fait tu dramatises. Là c'est pareil, je dis non, ils parlent pas vraiment Klingon. Non, ils sont pas capables d'écrire des trucs en romulien. Non, c'est pas possible. Et si, je sais que vous en êtes capables. Certains d'entre vous, pas tous, mais certains. Comment on dit Roquefort en Klingon? Ça oui, c'est une vraie question. C'est un mode Star Trek de Stellaris Black Valk. Oui, c'est l'impression que ça donne, ouais, complètement. Bon bah écoutez, voilà, donc en tout cas, ça fait un four, et c'est bien triste pour les gens qui voudraient jouer, mais vu qu'apparemment c'est extrêmement négatif sur Steam, je pense qu'on n'a pas perdu grand-chose. Et alors la bonne nouvelle, parce que moi je suis toujours quelqu'un qui voit le verre Klingon à moitié plein, c'est que... Qu'est-ce qu'il me fait lui? Voilà. C'est que Starship Simulator, lui, a fait... Ah, est en train de massacrer son Kickstarter. Il a tout explosé. Alors, Faut-il croire en ce jeu? La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'il est développé, parce que c'est un jeu incroyablement ambitieux, qui est développé par ces deux personnes. Alors, moi, je trouve ça bien. Moi, les jeux développés par des couples, ça fait battre mon petit cœur. Je trouve toujours ça super mignon, qu'un couple soit là, hey, on est trois amoureux, on va faire le jeu vidéo dont on rêve tous les deux. Je trouve ça magnifique. Je trouve que c'est bien plus beau qu'avoir un enfant. Mais là où c'est... où il faut quand même... Enfin, je vois quand même deux personnes qui bossent sur un truc pareil, je me dis... Parce que j'ai joué, donc il y a la démo, si vous voulez jouer sur Steam. Hein. C'est bien, mais c'est vide. Pour le moment, c'est très très vide. Et il y a du taf. Il y a grave de taf. Alors l'idée, en gros, bon, le jeu, hein, c'est... Ben, en gros, c'est Star Trek, quoi. Et c'est le vrai... Bon, c'est ça, enfin, le problème que j'ai dans les jeux vidéo, c'est que les jeux vidéo, notamment les jeux vidéo spatiaux, et enfin, les jeux vidéo en général, hein, mais les jeux vidéo spatiaux en particulier, ils nous obligent à grinder comme des cochons, quoi. T'arrives sur une planète, tu devrais être en train de dire « Oh, mais j'admire la beauté infinie de l'espace », et non, tu vas prendre ta pelle et tu vas gratter le sol comme un vieux porc, là, pour trouver des truffes et fabriquer un vaisseau avec, ou quand même pas un vaisseau, une upgrade de 2% pour ton vaisseau, quoi. Donc, c'est d'une grande tristesse, et là, ça a vraiment l'air d'être un truc où tu vas partir, explorer des exoplanètes, les distances sont réelles. Moi, dans la démo, j'ai exploré le système solaire. C'est génial, parce que tu as vraiment le feeling de... Tu réalises les échelles, quoi. Que les planètes sont minuscules et que c'est quasiment que du vide, contrairement à la plupart des jeux où les planètes, elles sont énormes et elles se touchent, quoi. Là, c'est... tout est vraiment... voilà, tout est à l'échelle réaliste. C'est superbe. Regarde, et puis tu peux aller dans ta cabine et tu te promènes dans ton vaisseau, tu te fous en orbite de Jupiter et tu regardes Europe qui passe. Enfin, moi, c'est le truc... Ça me fait rêver. Ça me fait rêver comme jeu. Tu peux customiser ton vaisseau pour mettre de la moquette mauve. Enfin, voilà. Le rêve absolu. Mais tu peux avoir du personnel italien. Alors, écoutez, moi, mon rêve, c'est d'avoir un vaisseau spatial où tout le monde serait italien, où la moquette serait mauve. Et ce jeu me permet de réaliser ce rêve. Et ça, je trouve ça génial. Donc, vraiment, j'ai très, très envie d'y jouer. Très, très envie d'y jouer. Mais, voilà. Alors, le problème, c'est qu'ils sont hyper, hyper ambitieux, quoi. Ils veulent modéliser des trucs de façon très très précise, faire des sortes de trucs très dynamiques avec la possibilité d'explorer toute la galaxie, donc la nôtre, hein, la Voie Lactée, avec tout ce qui n'est pas connu, on le génère procéduralement, tout ce qui est connu, on le fait à partir des vraies cartes stellaires dont on dispose. Je trouve ça... Non, Star Citizen, c'est trop... Star Citizen, c'est pas moi les jeux spatiaux que j'ai. Le problème que j'ai, c'est que j'ai pas envie que ce soit des jeux vidéo. J'ai envie que ce soit autre chose. Par exemple, un jeu que j'aime beaucoup, c'est Space Engine, qui est c'est même pas vraiment un jeu, hein, c'est un planétarium gigantesque. Mais par contre, tous les trucs genre Elite, tout ça, c'est Euro Truck Simulator, quoi. C'est bien, Euro Truck, hein. Mais j'ai pas envie de ça pour un jeu spatial. Moi, j'ai envie de jeux où vraiment, on serait juste à explorer, quoi. Un truc complètement contemplatif, mais avec quand même une vague couche de gameplay, parce que Space Engine, c'est quand même... Enfin oui, c'est un planétarium, quoi. C'est vraiment rien d'autre. Et pour moi, là, la promesse de ce jeu, c'est vraiment l'équilibre dont j'ai toujours rêvé dans un jeu. C'est vraiment le côté, t'as un vaisseau, ça prend du temps de faire les trajets, il y a une part de gameplay, tu peux trouver des trucs sur les planètes qui te permettront de progresser, etc. Mais en même temps, c'est pas du grind, c'est pas des... Enfin, il y aura apparemment des combats, mais j'espère qu'il n'y en aura pas trop. C'est quand même essentiellement, tu vas te rencontrer des trucs dans l'espace, de nouveaux éléments scientifiques que tu vas récupérer, que tu pourras, voilà... je sais pas, je trouve ça vraiment... C'est ce que j'attends d'un jeu spatial. Est-ce que ça va en faire un bon jeu? Je ne sais pas. Écoutez, je vous laisse quand même le Kickstarter, mais n'attendez pas des miracles. En tout cas, n'attendez pas des miracles dans les mois et les années qui viennent, parce que c'est quand même un gros, gros taf, quoi. On peut personnaliser son vaisseau et Alien Zone. Pour le moment, c'est surtout visuel, la personnalisation, hein. C'est, en gros, tu changes la couleur des trucs, quoi. Tu peux pas vraiment mettre des modules à la Subnautica, quoi. Par exemple, où t'emboîtes des tubes et des machins pour faire le vaisseau que tu veux. Ah oui, puis si, divorce, ça c'est comme quand tu joues dans un groupe avec ta copine, c'est le pire erreur. Faut jamais qu'elle va être en couple sur un projet créatif pour les problèmes voilà, que ça peut poser. Bon, en fait, non, pas forcément, il suffit que les gens s'entendent bien. Pour l'avoir fait par le passé, donc ça peut marcher. Mais là, c'est vrai que c'est quand même un gros taf pour deux personnes, en fait. C'est pas tant le côté couple qui m'inquiète, c'est le côté deux personnes. C'est typiquement le genre de jeu qu'il faudrait faire développer par un polycule. Voilà, deux personnes, c'est pas assez. Bon, on finit avec encore une actu qui n'intéressera que moi, mais c'est pas grave. Donc on va passer au Nutri-Score D. Vous vous rappelez du jeu avec lequel je vous ai traumatisé il y a quelques temps? Buckshot Roulette. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Buckshot Roulette, c'est un jeu... En gros, c'est Inscription, mais sauf qu'on joue à la roulette russe en buvant des bières. dans une boîte de nuit berlinoise. Donc ça a tout pour plaire, et c'est très très drôle. Et il vient d'arriver sur Steam, il a fait un beau carton sur itch.io, et donc le jeu est cool, et il va avoir un mode multi, voilà, qui va être ajouté, et j'ai tellement hâte de voir ça, parce qu'un mode multi, enfin jouer à la roulette russe en multi, c'est peut-être un des trucs, une expérience de jeu vidéo les plus bizarres que j'ai envie d'essayer. Enfin, c'est Voyage au bout de l'enfer, mais avec chacun avec son flingue. Non, pas en vrai, Toto. Pas en vrai. Ça, non, non, là, c'est un jeu vidéo, sinon c'est pas rigolo. Enfin, c'est rigolo, mais voilà, ça demande quand même un goût particulier de jouer vraiment à la roulette russe. Personnellement, je suis pas client. Mais là, le fait de voir ça, c'est... je trouve ça vraiment très très drôle d'imaginer un mode multi où on pourra jouer l'un contre l'autre, à boire des, on boira des bières et on fumera des cigarettes en se tirant des cartouches et des fusils dans la bouche. Ça va être la pire expérience de jeu vidéo qui soit, en plus que le jeu est glauque à l'extrême, ce qui marche très bien, mais qui lui donne quand même un côté très particulier. Et c'est vraiment... Les gens ont payé Itch.io, réclamé une stream gratos. Franchement, pour le prix qu'il coûte, achetez-le deux fois. Quoi. Il coûte quoi? Il coûte 3 balles, je crois. Donc ouais, c'est... ce sera parfait pour le prochain confinement. C'est vrai, Timmy Corpo, c'est exactement un jeu de confinement. Ça, tu ne veux pas voir tes potes, alors tu joues à roulette russe avec eux à distance. Ah oui, ça c'est clair, Antitan, c'est le jeu qui ferait... Bon, après, encore une fois, je trouve que c'est un jeu génial, parce que, notamment pour plein de raisons, parce qu'en termes de mise en scène, notamment, il est ultra réalisé et ultra, ultra travaillé, ultra fin, dans la mise en scène de la violence, notamment, et des corps. Je trouve ça vachement intéressant, parce que mine de rien, on dit faire un jeu de roulette russe, c'est facile, parce que le roulette russe, c'est vrai qu'en termes de gameplay... C'est complètement con, quoi. Tu prends un flingue, tu mets une balle dedans, tu tires. Mais réussir à faire un jeu virtuel de roulette russe, c'est hyper dur. Parce que le seul intérêt, entre guillemets, je mets des guillemets parce que vous êtes très littéraux ce soir, de la roulette russe, c'est le risque. C'est ça qui fait le charme du jeu. Sinon, c'est un jeu à la con, la roulette russe. Mais dans un jeu vidéo, par définition, tu risques rien. Donc, un jeu de roulette russe qui serait juste t'appuies sur un bouton et tu tires, ça serait nul. Et là, ils ont réussi dans l'attente, dans les animations, dans l'ambiance... à vraiment te faire stresser, en fait, t'as peur de te tirer dessus dans le jeu, et ça, en termes de, enfin, vraiment, en termes de game design, et de design d'environnement, et de mise en scène, je trouve ça vraiment très très réussi, c'est ce que j'ai vraiment trouvé très très bien dans le jeu, au-delà même de son gameplay qui est rigolo, mais c'est surtout le travail sur l'ambiance, c'est tout, je m'intéresse beaucoup à la mise en scène de la violence dans les fictions, enfin dans les images, et ça, je trouve ça vraiment super travaillé, super intéressant. Donc c'est vraiment, c'est très bien pour ça. Et alors, en multi, j'ose même pas imaginer le truc. Donc, je disais, voilà, c'est un jeu que je trouve très bien, mais néanmoins, ouais, n'y jouez pas avec des enfants, quoi. C'est quand même un jeu réservé à un public averti, hein. C'est quand même assez rude. Écoutez, on a fait le tour de l'actualité, ça tombe bien parce qu'il est 51, donc ça va être l'heure de parler de ce qui n'est pas l'actualité. D'abord, ce qui est l'actualité, mais l'actualité un peu à la cool, quoi, l'actualité entre nous, l'actualité des poteaux. Donc, on commence, comme le veut la coutume, par l'article gratuit de Canard PC, chaque année, j'allais dire. Chaque semaine, je confonds toujours semaine et année, c'est dingue cette histoire. Mais vraiment, ça fait des semaines, et pour ne pas dire des années, que ça me fait ça. C'est chaque semaine, les lecteurs et lectrices de Canard PC peuvent, peuvent, votent, ils sont obligés, s'ils ne le font pas, on va y aller chercher, votent pour un article qu'ils vont rendre gratuit, donc ils désactivent le paywall. On entend, donc c'est un dimanche soir à minuit, on entend... au moment où le paywall se désactive, c'est un bruit très caractéristique, et donc ça vous donne accès à cet article-là. Un 52e, Papy Poulet, pas 55e, voyons, mais qui sont ces gens qui ne savent pas combien il y a de semaines dans une année? Voyons, c'est toi que t'es pas fabricant de calendrier, toi. Oui, montrez d'abord Voyage au bout de l'enfer, ou l'adaptation en dessin animé par Studio Ghibli avant de leur proposer une partie. Donc, c'est voilà, les articles qui végétalisent les jeux vidéo. Donc, c'est un très bon article, Hélène Ripley, sur un truc tout con auquel vous n'avez sans doute jamais pensé. En tout cas, j'y avais jamais pensé. Qui sont les gens qui dessinent des plantes dans les jeux vidéo? Parce qu'il y a beaucoup de plantes dans les jeux vidéo, mine de rien. Et qui les dessine? Regardez-moi ça, c'est de la belle végétation dans les jeux vidéo. Eh bien, écoutez, ce sont des gens qui travaillent d'arrache-pied pour fabriquer tous ces petits arbres. Et que, c'est même un métier, il y a des gens qui sont lead vegetation artists, si vous vous rendez compte, c'est quand même génial sur une carte de visite. Eh bien, ces gens-là, Hélène Ripley est allée leur parler, et leur a posé des questions sur leur métier, et comment ils en sont arrivés à faire ça, parce que c'est quand même une bonne question, et c'est super intéressant. Oui, lead designer fougère, voilà, Vilou, c'est un peu ça. Je trouve ça vraiment très très cool. Quoi d'autre? Ah oui, là, c'est un article qui n'est pas gratuit, Mais je vous en avais parlé la dernière fois, donc je fais mon propre service après-vente. Je vous avais dit que j'avais trouvé un jeu... Là, ça va, je l'ai fini, donc je suis un peu sorti. Un jeu qui rend dingue, c'était Gnorp, je ne sais pas comment on le prononce, Apologue. Ben, je traduis végétation par végétation, si je veux, Hans Vinuris, en fait. Si je veux traduire végétation par, je sais pas, animalité, je peux le faire. Tout est possible ici. Tout est possible. Donc c'est voilà, c'est le... Alors, qui dessine les cases dans les FPS, Belgare du Nord serait une très bonne question. La vraie question, c'est de savoir pourquoi il y a tant de cases dans les FPS, mais la réponse est assez facile, c'est que c'est un truc facile à modéliser. Donc voilà, Gnorp Apologue, c'est un clicker très 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 bien. Oui, c'est ça, exactement, Rindaman. J'ai échappé à Balatro pour tomber là-dedans. L'avantage, c'est qu'on voit le bout plus vite que Balatro. En même temps, il coûte 3 fois moins cher, donc c'est legit. Et c'est vraiment... je vous encourage à y jouer si vous aimez les clickers. Et si vous aimez les jeux bizarres, c'est vraiment très bien. Et je vous encourage, si vous êtes abonné, à lire cet article. Je vous explique pourquoi c'est très très bien. Et comme ça, vous savez pourquoi j'étais pas productif la semaine dernière. C'était à cause de ce machin. On continue l'épisode, la partie marchand de tapis, avec notre dernier tapis, qui est pas un tapis, mais un livre. Je vous poste le lien aussi. Boum! C'est l'album des 20 ans de Canard PC. Donc écoutez, ben voilà, on a atteint les 300%. Merci à vous. Le prochain palier, c'est les 375%. On est à 328, ça ne devrait plus trop tarder. Mais tout dépend de vous et de votre argent. Si vous donnez suffisamment d'argent, on arrivera... Alors pourquoi 375 et pas 400, allez-vous me demander? Je me suis posé la question. J'ai posé la question à Yvan. Yvan m'a dit, mais c'est pas comme ça, ça fait 3000 tout ronds. Alors j'ai dit, d'accord. Donc il a préféré choisir le nombre plutôt que le pourcentage, alors que là on était à 100, 200, 300. Il n'y a aucune logique dans cette boîte, je ne sais même pas comment elle fait pour tourner, mais toujours est-il que c'est comme ça. Donc, alors en plus, alors là, attention. Alors, en fait, il y a une bonne raison par contre de mettre à 375 et pas à 400, c'est que ça augmente les chances d'atteindre le palier. Et ce palier-là, franchement, les paliers précédents, je vous le dis, hein, moi je m'en foutais complètement. Vous avez des rabats, vous avez un meilleur papier, bon ça c'est pour les gens, vous aimez sentir l'odeur des papiers, voir des trucs sur vos tables, basses pour crâner devant vos copains, bon ça vous regarde, vous avez les problèmes socio-psychologiques que vous voulez. Mais par contre, celui-là, il est bien comme objectif, donc j'aimerais vraiment que vous fassiez un petit effort pour qu'on l'atteigne, parce que l'idée c'est de faire une émission spéciale avec un quiz géant sur l'histoire de Canard PC, un quiz qui serait écrit par Sonia. Et Sonia, il faut savoir une chose, c'est qu'elle a une mémoire monstrueuse de toutes les petites anecdotes. Donc, ça va être un quiz ultra compliqué dans lequel on va se ridiculiser. Ça va être du genre, oui, mais qui avait fait telle blague à la fin d'un bouclage tel jour? Et on va être là. J'en ai aucune idée parce que ça s'est passé il y a 15 ans. Comment tu peux te souvenir de ça? Eh bien, voilà. Ce sera ce genre de quiz. Merci pour ton argent, HBK Live. Et donc c'est vraiment, je trouve que c'est un très bon stretch goal. Parce que c'est, mine de rien, vous savez, c'est dur de trouver des stretch goals. Hein. C'est un métier. Hein. C'est-à-dire, il y a des stretch goalistes, on appelle ça comme ça, qui suivent c'est une formation de 5 ans dans stretch goalogie. Et eux, bon voilà, ils savent faire ça. Nous, on fait ça, on a pas de spécialiste dans la boîte, c'est une petite boîte. Hein. Donc on fait ça un peu à la main. Et là, celui-là, il est très très bien. Je trouve que c'est un très bon stretch goal, donc j'espère qu'on va l'atteindre. Parce que faire cette émission, ce serait un plaisir, et ce sera aussi un plaisir pour vous de la regarder. Enfin non, je pense que ce sera plutôt douloureux pour vous. Je pense que vous la regarderez un peu comme on regarde un épisode de The Office, ou de Vickers, là, plus récemment. C'est-à-dire que ça va être du cringe. Vous allez tous nous voir galérer à faire « Mais c'est super dur, on va tous avoir 0% de réussite aux questions. » Et vous nous regarderez comme ça, devant votre télé, genre « Oh, comment ils peuvent être aussi nuls sur leur propre mag ?» Ça va être douloureux, mais c'est une douleur que vous avez envie de connaître. Quoi d'autre? On a tellement de trucs. Je ne sais même plus, quoi faire. On a... oui, on a le pavé numérique aussi. C'est la newsletter de Canard PC. Je vous passe juste le lien, parce que vous le connaissez. De toute façon, il n'y a rien à voir de plus. Vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Ça apparaît tous les mercredis, c'est-à-dire demain. Et à propos de... Ah oui, il y a aussi à propos de newsletter. Il y a la newsletter de Koub, sans laquelle rien de ceci n'aurait été possible. Boum! Et enfin, toute l'actualité du jeu vidéo, et même plus, et même... Mais quand... Non, c'est bien, c'est que... Quand je dis, par exemple, Scroll News, c'est toute l'actualité du jeu vidéo, il est évident que c'est un mensonge. Dans Scroll News, vous avez peut-être 0,2% de l'actualité du jeu vidéo, et 1% de mes dernières lubies, quoi. Quand je dis que Koub, c'est toute l'actualité du jeu vidéo, c'est pas une hyperbole. C'est-à-dire qu'il y a vraiment tout. tout. C'est une newsletter. Le mec, il est exhaustif. Je comprends toujours pas comment il fait. Mais donc, si vous voulez vraiment toute l'actualité du jeu vidéo, elle est dans la newsletter de Coop. Et tu as 665 abonnés. C'est un même pas un par jour de la semaine, nous dirait Papy Poulet. Un par jour de l'année. Vous voyez, mais regarde, c'est dingue. Vraiment, je crois que l'explication est vraiment de nature neurologique, quoi. Je confonds semaine, c'est comme si les deux mots étaient interchangeables dans mon esprit, semaine et année. C'est super bizarre, quoi. Donc, c'est pas normal. Cet homme mérite beaucoup plus d'abonnés. Abonnez-vous à sa newsletter, qui est également gratuite, comme le pavé numérique. Il y a aussi l'insolite, mais ça, c'est ma newsletter. Je vais pas faire la réclame de mes propres projets sur la chaîne Canard PC. Si, je pense que je le ferai bientôt, parce que j'ai un très 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 gros projet qui va bientôt sortir du four, et là, j'en parlerai, parce que putain, depuis le temps que je bosse dessus, il y a intérêt à ce qu'il y ait des gens qui s'y intéressent. Mais pour l'insolite, c'est un truc que j'écris chaque semaine, vous abonnez si vous voulez, je vais pas vous obliger. Déjà, j'ai pas le droit. Légalement, si je vous obligeais, je pense que vous pourriez aller voir la police. Si par exemple, j'arrivais à mon armée, en disant, vous devez vous abonner à ma newsletter maintenant. Je pense qu'il y a un article du code pénal quelque part qui dit que j'ai pas le droit de vous contraindre physiquement à faire ce genre de choses. S'il n'y a pas de contrainte monétaire, vu que c'est une newsletter gratuite, ça ira probablement pas très chercher très loin, mais je prendrai du sursis, je pense, ouais. Il y a moyen. Bon, sur ce, le planning de stream. Alors, tout à l'heure, vous aviez Denis, parce que comme du coup maintenant je suis plus lundi mais mardi, il y a déjà une partie de la semaine et non pas de l'année qui est derrière moi. Donc je dois aussi faire le planning à reculons. Donc à 14h aujourd'hui, vous aviez Denis qui faisait du vélo. J'espère que c'était bien, parce que moi je ne l'ai pas vu. Parce que j'étais en train d'écrire Le Cri du Lapin, qui paraît demain. Non, Le Pavé Numérique, putain mais tout change de nom en plus. Ensuite, alors, important petit changement de planning, donc je précise, parce que je sais que vous suivez encore. Alors oui, rappel, regardez l'agenda Google. L'agenda Google fait foi. L'agenda Twitch, il est pourri, il ne faut pas le regarder. Donc l'agenda Google indique aujourd'hui que le brut de donc le stream DCS de jeudi, de vendredi, a été déplacé au jeudi. Donc c'est jeudi à 12h30 qu'on jouera à DCS. Voilà. Ah, la biographie de Karma qui est sortie en français. Merci Raphaël, c'est une actu importante en effet, on en parlera peut-être vite fait. Je ne l'ai toujours pas lu ni en anglais ni en français, il faut vraiment que je le fasse. Donc jeudi à 12h30, vous aurez DCS, où on pourra parler de drames humains, de tout ce qui fait le charme de DCS aujourd'hui, qui est plus vraiment un jeu d'avion maintenant, c'est plutôt une émission de télé-réalité où on voit des développeurs qui s'injurient et qui se menacent de procès. Mais c'est pas mal aussi, c'est pas mal aussi. Ensuite, vendredi, grande actualité, là c'est les vacances scolaires. Comme vous le savez, si vous avez des enfants, personnellement j'en ai 15, là ils sont tous partis chez leur mère. Le vendredi à 11h, vous aurez le remplacement donc, du pavé numérique live, parce que comme c'est les vacances scolaires, Yvan est en vacances, donc c'est le show des frères Tapdur, comme on les appelle, hein. C'est Denis et François, les irremplaçables, qui vont vous régaler avec l'actualité de nos régions à 11h. Et franchement, c'est très très drôle leur stream, donc regardez-le, ça leur fait plaisir. C'est une bonne action que vous faites pour la PQR et pour deux grands saltimbanques qui ont une excellente énergie, tous les deux. Donc je vous encourage, voilà, Soupape et Denis qui squattent le pavé à 11h vendredi. Donc voilà le planning. C'est vrai que tu parles pas de DCS dans ta newsletter, Coupe, mais t'as raison, parce que sinon ta newsletter actuellement, elle doublerait en taille. En général, il n'y a rien à dire sur DCS, mais là, depuis une semaine, c'est... C'est merveilleux, c'est le premier fournisseur de popcorn mondial, quoi. La mission jeudi, 5-1, ce sera, je n'en sais absolument rien, parce que tu crois que je prépare quoi que ce soit dans ma vie plus de 24 heures à l'avance? Non mais sérieusement, tu crois que je suis le genre de personne qui est là? Oui, alors peut-être que le mois prochain, je vais être un peu chargé en semaine 3, je vais devoir... Mais pas du tout, ce Scroll News n'existait pas 3 heures avant que je commence à m'asseoir sur cette chaise. Bon, alors... Allons-y, on va faire quoi? Ben on va raider. Alors qui on va raider? Est-ce qu'il y a quelqu'un de la commu qui raid? En semaine 3, en année 3, j'étais pas trop occupé, Alien. Quoique si, c'est l'année où je suis rentré à l'école maternelle, donc j'étais une année assez occupée, l'année 3. Ouais. Non, je confonds pas les mois et les semaines, je confonds les semaines et les années. C'est très bizarre, hein. Les mois, je confonds pas. C'est incompréhensible, et ça fait des années que ça me fait ça. Je sais pas pourquoi. C'est... Alors, il y a Jean-Luc Mélenchon qui raide. On va pas raider Jean-Luc Mélenchon. Qui on va pouvoir raider? C'est toujours une galère. Depuis qu'ils m'ont changé le petit machin qui... Oh, il y avait un petit truc bien cool qui permettait de raider facilement. Maintenant, ils m'ont tout cassé. Et je comprends plus rien. Et parce que voilà, j'ai atteint l'âge où je comprends plus quand les boutons bougent. Et dessous, il y a dessous qui raide? Attendez, bougez pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un truc que vous avez peut-être pas chez vous, ça s'appelle Internet. Comme ça, je vais voir si dessous est en train de. Soutienko, est-ce qu'elle est en train de streamer? Non, elle stream pas. Que des mensonges. Ah, il y a Lisure qui stream. Ah, ça, c'est bien. En plus, ça fait des semaines, non pas des années, qu'avec Lisure, on essaye de se caler un stream tous les deux, enfin, ou tous les trois avec Julie, et on n'arrive pas à trouver un créneau, mais on essaiera de faire ça courant avril. Ah, ben, je vais vous l'envoyer. Merci pour ton argent, Baka. T'arrives un peu tard, malheureusement. Je vous envoie chez Idzurp, qui fait un peu partie de la commune maintenant, vu qu'on a fait des streams avec lui. Allez. Eh bien. Par contre, il a un pseudo qui n'est pas facile à taper ni à prononcer. Hein. Et donc, j'espère que vous lui passerez le message. Bon, passez le bonjour de ma part. Et puis, moi, je vous retrouve jeudi pour faire des. Probablement bombarder un quelconque pays du tiers-monde dans des CS. Voilà. À bientôt. Salut!